su Atene dominé les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Vous vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
Je n'ai
pas
d'inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'école des Garrigues de Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, je crois que tout à l'heure on va vous parler un peu de ce qui se passe en Espagne avec la suite du mouvement qu'il y a eu. On vous parlera aussi des indignés sur Paris avec ce qui s'est passé ce week-end et ces dizaines d'arrestations. Et puis avant, je voudrais évoquer quelque chose qui vient de me tomber et qui m'a paru intéressant. C'est les chiffres, comme vous le savez, il y a des tas de gens qui essayent de passer en Italie et qui viennent de Libye ou qui viennent de Tunisie, qui ne sont pas forcément libyens et tunisiens d'ailleurs, puisqu'il y a toutes les nationalités qui sont concernées, y compris les Pakistanais d'ailleurs. Voilà, alors donc, on sait, d'après l'ONU, hein, c'est les chiffres officiels de l'ONU, du 1er janvier au 14 juin 2011, il y a eu 42 534 migrants qui sont arrivés donc à Lampedusa, 24 000, un peu plus de 24 000 qui venaient de Tunisie, pas forcément des Tunisiens, comme je vous le rappelle, 18 300 qui venaient de Libye, d'accord. Il y a quand même eu 2 500 morts en mer, hein, depuis le 1er janvier 2011. Ça fait quand même un truc énorme par rapport à ces 42 000 personnes qui sont arrivées. Ensuite, avant que tu te donnes la parole, je suis tombé sur d'autres chiffres qui permettent de relativiser ces 42 000 personnes, etc. Je viens de vous dire qu'il y a 18 300 personnes qui sont arrivées de Libye, en Algérie. Il faut savoir que pendant la même période, la Tunisie a accueilli, tenez-vous bien, 288 000 Libyens, et 190 000 migrants d'autres nations. Tout ça pour vous dire que les pays développés, comme la France, l'Italie, sont loin, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accorder l'asile à toute la misère du monde, puisque cette misère du monde, généralement, elle se déplace bien là où il y a aussi de la misère, quoi. Je crois que c'est des chiffres intéressants, puisque ça permet de se rendre compte que c'est 6 fois plus de migration internationale qui se passe dans une zone en 6 mois, quoi.
Alors, merci pour avoir fait le lien, la transition. Normalement, si ça fonctionne, on doit avoir notre camarade au téléphone. Charlie, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Super, très bien.
Salut.
Alors, tu entends bien, ça va ?
Oui, ça va.
Alors, on va essayer de parler doucement, parce que moi, j'ai absolument pas amélioré mon espagnol. Et toi, oui. C'est pas forcément facile de parler en français. Donc, on a la chance de t'avoir ce soir. Tu es à Grenade. On est le 20 juin pour les auditeurs qui nous reprendraient plus tard. Et donc, hier, il y avait la grande journée de mobilisation internationale. Moi, je parlerai de plus tard de ce que j'ai vu à Paris. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé à Grenade et qu'est-ce que tu as comme information sur ce qui s'est passé en Espagne ?
Oui. Hier, j'étais à Grenade, comme tu as dit. Et il avait l'appel de solidarité internationale. Et bon, les phrases les plus importantes de l'appel, c'était que nous ne sommes pas des produits de banques et de politiques. Je ne sais pas si vous comprenez.
Si, oui. Tout à fait.
Et que le peuple s'est réveillé et qu'on peut décider.
Mmh.
Donc, il y avait l'appel et il y avait à 18 heures, on était dans la place principale, 25 000 personnes. Et par rapport à la première manifestation, c'est plus grosse,
mm-hmm.
parce que la première manifestation, ça a été 10 000 personnes. Donc, il y avait un plus fort mouvement hier soir. Et tout était sans problème.
Mmh.
Et la manifestation a marché sur la ville plus centrale, sur le centre de la ville de Grenade. Mais il y avait aussi plusieurs manifestations par toutes les villes de l'Espagne et par toutes les petites villes de tout l'État espagnol. Et bon, je ne sais pas. C'est plus gros, c'est super gros, et toutes les personnes étaient vraiment, comment dire ça, vraiment impliquées.
Mm-hmm. Motivées.
Oui, motivées, merci. Et pour moi, ça a été impressionnant de voir par première fois la ville de Grenade comme ça, toute la variété de personnes qui sont été là-bas. Des jeunes, des anciens, des chômeurs, des étudiants, toutes les personnes super liées, parce que les personnes ont fait un très très grand groupe après les occupations et tout ça. Et j'ai senti une ambiance que j'ai jamais vue ici
oui.
à la ville.
Parce qu'il faut dire qu'à Grenade, comme ailleurs, le campement, la Campado, il a été,
oui.
il est levé quoi. Donc on aurait pu craindre, on aurait pu avoir peur que le mouvement soit un peu retombé, et en fait, pas du tout, puisque cette journée du 19, elle est, il y a aussi la journée du 15, notamment à Barcelone, où il y a eu une tentative d'invasion du Parlement, qui était très intéressant, mais cette journée du 19 en Espagne, elle est vraiment historique, puisque ce sont les plus grandes manifestations depuis, depuis toujours, quoi, hein, pratiquement.
Oui. C'est plus gros maintenant qu'au
début
de tous les mouvements. Mmh. Donc les personnes se sentent très, très motivées et très illusionnées parce que ça va crescendo. C'est plus grand. C'est incroyable ça. Mmh. Et le travail maintenant, parce que j'ai parlé avec mes copines et mes copains, et le travail qu'il y a maintenant, c'est faire plus fort et plus important l'organisation
mm-hmm.
du mouvement. Et j'ai déjà écouté aussi l'idée d'un grève générale,
mm-hmm.
mais seulement j'ai écouté. Je ne sais pas comment ça va marcher dans les prochains mois. Et il y a une chose très intéressante aussi, que dans les dernières semaines, à l'Espagne, à différents points de l'État espagnol, il y avait les groupes de personnes ont arrêté l'expulsion des voisins.
D'accord.
Des voisins qui n'avaient pas payé les loyers. Ils sont, dans tout l'État espagnol, ils s'arrêtent. Maintenant, parce que les personnes, des groupes de personnes arrivent et vont faire face à la police pour arrêter l'expulsion des voisins.
Ouais, génial.
Et c'est super important ça,
oui.
les dernières choses.
Ouais. Et donc, pour toi, l'état d'esprit des Espagnols et plus particulièrement en Andalousie, à Grenade et à Murcia, les gens, ils ont encore le moral, ils ont la pêche, et au contraire, cette journée, ça les a renforcés, ça les a ils sont pas démotivés, ils ont encore la motivation.
Non, c'est plus renforcé, je crois. Et le travail, les discussions sont évoluées, donc c'est important, c'est intéressant, c'est intéressant. Et les personnes se sont plus motivées.
D'accord.
Alors... Parce que... Quoi?
Oui, vas-y, continue, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Bon, c'est... je sais pas.
Hier, moi, j'étais à Paris et on a eu l'occasion d'avoir quelqu'un au téléphone pendant la manifestation, quelqu'un qui était à Madrid et qui donc nous supportait et en même temps relayait la solidarité qu'il pouvait y avoir ici. Est-ce que tu as eu, toi, des informations? Je sais qu'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure par rapport à la journée de Paris, il y a une réunion de solidarité à Grenade pour les gens qui se sont fait arrêter. Hier, il y a eu 169 personnes interpellées, dont 39 pour le moment sûrs qui vont avoir une convocation pour rassemblement interdit, mais on entrera dans le détail plus tard. Mais il y avait aussi des tonnes et des tonnes de manifestations partout. Par exemple, en Grèce, ça a été la manifestation la plus importante depuis la chute des colonels. Il y a eu aussi une manifestation à Londres qui a été extrêmement importante, à Brasilia également, à Rio de Janeiro. Il y a eu beaucoup de choses partout. Donc, il devait y avoir une journée internationale de solidarité avec vous, les Espagnols, et également de dénonciation de cette situation, de crise économique internationale. Est-ce que vous arrivez à avoir de la communication avec les autres initiatives?
C'est difficile, je crois, parce qu'il y a beaucoup de travail ici pour faire. Donc c'est difficile, mais par exemple aujourd'hui, ce soir, il y a une manifestation en solidarité avec les arrestations à Paris. Donc il y a des connexions entre les personnes, mais je crois qu'il y a un minimum dans l'assemblée de Grenade qui sait que que chaque fois qu'il y a des répressions policières dans quel point de l'État espagnol ou dans quel point de d'autres pays, il y a une démonstration de solidarité contre la subdélégation du gouvernement à Grenade, que c'est l'organisme qui est principal de la police.
D'accord.
Donc, c'est difficile... avoir des contacts, des contacts, je pense, parce que quand tu as beaucoup de travail dans ton propre assemblée, c'est difficile, mais je pense qu'il y a une intention d'avoir des liaisons, des contacts et des informations et des mostres de solidarité par rapport les activités de les autres personnes.
D'accord. Et est-ce qu'il y a encore des assemblées comme au début? Comment se prennent les décisions et comment se passent les discussions?
Je pense que c'est le même principe de le début, mais les assemblées sont plus décentralisées parce qu'il y a beaucoup d'assemblées dans les quartiers.
D'accord.
Donc les assemblées des quartiers, de cette assemblée sortent des propositions et une fois par semaine, toutes les personnes arrivent à l'assemblée générale et discutent les propositions de les assemblées quartier.
D'accord.
Donc c'est plus décentralisé et le travail maintenant c'est plus de petits groupes qui arrivent à l'assemblée pour donner des travail, pour donner des vies à les quartiers, à le travail des quartiers.
Super. Et est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous pour vous à Grenade en Espagne, tu sais?
Quoi?
Est-ce qu'il y a les prochaines dates, hein? C'est quand?
Par le moment, je ne sais pas.
D'accord, pour le moment, il n'y a rien.
Par le moment, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on laisse Chari tranquille, hein, parce qu'elle est en rassemblement? Écoute, ne raccroche pas, nous on va envoyer de la musique. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris de nos nouvelles. Ici, ça va, tu vois, on a réussi à se sauver. Enfin, bon, je te raconte tout ça au téléphone, ne raccroche pas.
D'accord, au revoir.
Au revoir.
The time is right to fight! Attendez, l'eau.
It's time to live and it's time to die. It's time to live and it's time to die. It's time to live.
Alors parlons un petit peu des indignés, en particulier de ce qui s'est passé à Paris hier.
Alors oui, bon, bah, déjà, moi j'aime pas trop le terme indigné, donc on va utiliser ça à défaut. En plus, c'est plutôt quelque chose
qu'ils disent, non ?
Ben, au départ, c'est quelque chose qui a quand même été donné par les médias, quoi. Parce que pour eux, ils aiment bien mettre, tu sais, révolution du jasmin, révolution orange, rose, de velours, etc., etc. Faut transformer des mouvements sociaux en slogans et en marchandises. Donc, c'est bien de mettre des étiquettes comme ça.
D'accord.
Et en plus, c'est bien parce que ça correspond avec le bouquin de Stéphane Hessel. Donc, on a un espèce de gros package sur lesquels chroniqueurs, éditorialistes et tout ça vont pouvoir pondre. Parce que, effectivement, ils n'ont pas grand chose à raconter. Donc ils vont pouvoir tartiner dans leur torche-cul pendant des heures et des heures. Enfin bon, du coup ça a été repris par une partie des gens, puisqu'il y avait des gens qui prenaient ce terme-là, quoi. Effectivement c'est dommage. Moi je suis super mitigé par rapport à ce que j'ai vu. Donc évidemment, il est toujours difficile de regarder un mouvement comme ça quand on est soi-même un militant révolutionnaire et anarchiste. On a évidemment plein de choses à dire, plein de critiques à faire, mais on n'a pas à les faire si on n'est pas dans le mouvement d'une part, et puis il faut pas non plus partir avec ses propres préjugés. Donc ce qui se passait normalement dimanche, c'est qu'il y avait la convocation d'une manifestation au métro Jussieu à 11h, puis une montée sur le parvis de l'hôtel de ville, donc l'hôtel de ville centrale, celui qui est dans le 5e arrondissement à Paris. Là, il était proposé de déjeuner ensemble, et à partir de 14h, de commencer l'Assemblée Générale. Alors, première chose, ça faisait longtemps, j'avais pas vu autant de flics à Paris pour 450 personnes, quoi. D'ailleurs, la journée à Paris a été un peu éprouvante en termes sécuritaires, puisqu'il y avait trois manifestations et il y avait des flics partout. Enfin, des flics, des gendarmes mobiles et des CRS. De fait, il y avait eu également une manifestation de Chinois qui protestaient contre une agression d'un commerçant chinois dans le Belleville. Et il y avait au soir une manifestation de sionistes d'extrême droite du Bétard et de la Ligue de défense juive contre la tenue d'un concert au CICP, rue Voltaire. Donc, tu vois, le 11e et le 5e, c'était, et le 13e, c'était blindé de CRS, c'était vraiment horrible, plus ce qu'il y avait dans les métros, enfin, c'était vraiment malsain, quoi. Donc, il y avait beaucoup de flics qui étaient là, et il y avait notamment ces fameuses grilles qui sont devant les véhicules de police, qui servent à bloquer les routes, les rues, et à isoler les manifestants du reste de la population d'une part, et à les contrôler exactement comme pour le coup du bétail, c'est-à-dire à les canaliser dans certains endroits et pas dans d'autres, quoi. Donc tout ça était très sympathique, il y avait de la musique, voilà, majoritairement, faut pas se le cacher, c'est quand même des gens qui sont blancs, issus des classes moyennes ou des classes cultivées, hein, des étudiants, des enseignants, des gens qui ont quand même un certain bagage culturel et aussi également un certain type de revenus. Les échanges qui ont été là étaient à la fois très intéressants et très naïfs. J'y reviendrai après. Sur les déclarations, il y avait quand même beaucoup de gens que je qualifierais moi d'alternatifs ou de hippies, que ça soit dans le look ou également dans l'accoutrement, dans les paroles, quoi. C'est pas quelque chose qui est grave, hein, c'est pas grave du tout, hein. Je veux pas dire que je vais dans des manifestations où il y a tout le monde qui est en bleu de travail, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand même un indice sur l'espace social et sociologique que recouvrent ces gens-là. Donc ensuite, il y a eu le déplacement de ce rassemblement sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où là, normalement, devait se tenir l'Assemblée Générale. Et là, ça a été un peu le moment, j'allais dire, le plus sympathique de la journée, même si ça aboutit à des interpellations, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un encerclement en deux lignes de la part des CRS, un encerclement des gens qui étaient assis
et qui voulait commencer l'Assemblée Générale, puis un No Man's Land pour empêcher les gens à la fois de rentrer, à la fois les gens de sortir. Alors on appelle cette technique, maintenant elle est connue, ça s'appelle le kitting, ça veut dire faire bouillir en anglais, to kit, et ça permet d'isoler les gens, d'empêcher la communication avec l'extérieur, soit de leur mettre la pression en les maintenant dans une espèce de garde à vue semi-ouverte comme ça pendant des heures et des heures, soit de les exfiltrer un par un en les contrôlant, en les fichant, voire en les arrêtant. C'est cette technique qui avait été mise en place à Bellecour, pour ceux qui suivent un peu cette actualité, et qui avait pu donner lieu à cette espèce d'immense camp, hein, faut le dire, de contrôle à Bellecour. Là, évidemment,
c'est à Lyon.
Ouais, c'est à Lyon, pardon. Là, on était 400, donc évidemment, ça n'a pas la même ampleur, mais c'est des techniques qui sont aujourd'hui vraiment... alors, en plus, avec un acharnement, un équipement, parce que j'arriverais pas à le dire, donc je vais dire équipement à la place des CRS, qui est complètement disproportionné, hein, puisque en gros c'est des hippies et eux ils sont déjà les lacrymogènes et tout ça, donc il y a réellement un moyen qui est fait pour empêcher que l'action se déroule, et puis aussi un jeu psychologique qui est mis en avant. Mais bon, c'était quand même assez drôle, parce que le parvis de l'Hôtel de Ville, un dimanche après-midi, quand il fait pas trop mauvais, et le parvis de Notre-Dame de Paris, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de touristes. Et il fallait voir ces pauvres CRS qui avaient certainement eu la consigne de par leur chef de ne pas taper des touristes, qui essayaient dans l'anglais misérable, encore pire que le mien pour vous dire, d'identifier qui était touriste ou pas. En posant des questions à base de « Are you tourist ?» en manifestante. Et si tu veux, ils étaient pas super à l'aise, quoi, parce qu'il fallait pas qu'ils fassent trop de conneries. Et en plus, ils ont donné une image pour les touristes, parce qu'il y a évidemment, je pense que des milliards de photos et des milliers de photos qui ont été prises et tout ça. Donc ça, c'était assez marrant. Par contre, ce qui est nettement moins marrant et ce qui est nettement moins naïf, c'est que pour avoir un peu traîné et discuté avec des gens, c'est que la plupart des choses qui ont été produites ce dimanche à Paris, je ne sais pas ailleurs, elles étaient négociées. Alors, elles étaient négociées avec les flics et elles étaient négociées avec la préfecture de police. Et elles étaient tellement négociées avec les flics qu'il y avait des gens qui se baladaient avec des brassards verts et qui discutaient avec des policiers qui étaient en civil. Alors, évidemment, moi, je ne sais pas ce qui a été décidé en amont, donc je ne peux pas faire une critique. Par contre, je me pose des questions quant à la légitimité de la discussion et au fait... il faut savoir que à Paris, les rassemblements sont systématiquement déposés. Hein. C'est-à-dire que le rassemblement du parvis de Notre-Dame, il avait été déposé, il était autorisé. Donc l'arrestation des 150 personnes, elle a été faite de manière arbitraire, mais elle a été faite pour rassemblement interdit. Mais évidemment, ça va pas tomber. C'est juste quelque chose, une sorte de contrôle préventif, de guerre psychologique, et le fait que là, quelque part, ça emmerdait un peu quand même le cours tranquille des choses, quoi, de faire ça dans l'espace. Et puis je crois que le fait que ce mouvement quand même s'installe dans la durée les emmerde un peu à Paris, parce que c'est un peu pénible, quoi. Mais bon. On peut pas s'empêcher de critiquer cet aspect-là, parce que à partir du moment où on a un discours qui se veut être en rupture ou de construction de quelque chose, si on demande l'autorisation ou si, enfin, c'est des choses qui moi dans ma culture politique me choquent énormément. Alors, il s'agit pas de tout critiquer. Ce qui est sûr et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont profondément déterminés, qui véritablement croient en ce qu'ils font. Et qui, quelque part, et ça c'est très intéressant, ont absolument pas peur, sont persuadés, quasi mystiques même, sont persuadés qu'ils sont dans l'ordre des choses, qu'il va se passer quelque chose de manière internationale, et qui donc, par rapport à cette répression, ont des démarches que moi je trouve non seulement amusantes, mais aussi intéressantes. Alors par exemple, ils ont proposé aux flics d'accéder au tour de parole, dans l'Assemblée Générale, en leur demandant s'ils voulaient dire des choses, en passant le micro au CRS, en leur proposant de parler, de leur raconter leur quotidien, qu'est-ce que c'était de vivre avec un salaire de CRS, combien ils touchaient, etc., etc. Donc évidemment, les mecs ont été un petit peu déconvenus, quoi. Ouais, évidemment, évidemment. Et par contre, y a une certaine partie des personnes qui ont refusé de se faire embarquer, donc qui ont eu des méthodes de résistance passive, voilà. Et par contre, ça c'est un petit peu plus intéressant, c'est que lorsque les camions sont arrivés, bon, moi je me suis sauvé au moment où j'ai vu les camions de les bus en fait arriver, qui était évidemment le signe qu'on allait se faire embarquer, quoi. Bon, j'avais pas envie de me faire embarquer pour tout un tas de raisons, outre le fait que je devais être ici ce soir. Et quand les camions sont arrivés, on commençait à embarquer les gens et à partir. Il y a toute une partie des gens qui n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du cercle, si tu veux, qui ont essayé de se mettre devant les camions pour essayer d'empêcher les gens de partir. Et quelque part, je me dis que cette répression, elle va peut-être bien jouer dans le sens où elle va peut-être faire tomber quelques illusions, peut-être. Et en tous les cas, peut-être resserrer quelques liens. Et c'était intéressant parce que vu le monde, vu la foule, les flics étaient vraiment pas à l'aise, quoi. Et les camions sont allés donc dans le commissariat du 18e et du 11e, mais ils sont allés à 40 km/h ou à 20 km/h, et t'avais tout le temps des gens qui couraient à côté, quoi. Donc ça, par rapport à ça, c'est super intéressant. Et moi, les gens avec qui j'ai discuté, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter de tout, mais c'est qu'on part de très très loin. Et voilà, après, évidemment, c'est assez facile de critiquer ça en ayant passé une après-midi avec le mouvement des indignés parisiens, même si les critiques que je fais ici, c'est les critiques qu'on avait pu faire avant et les critiques qu'on avait pu faire ici. Mais bon, évidemment, quand on n'y est pas, c'est plus facile. Mais bon, à suivre, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant ce qui s'est passé ailleurs, quoi. En Grèce ou en Espagne ou dans d'autres pays. Après, moi, je sais pas quelles informations vous avez ou si vous avez des questions là-dessus.
Au niveau du contenu, parce que là, tu as parlé effectivement plus de la forme. Au niveau du contenu, qu'est-ce qui se dit parce que bon, c'est les gens, tu parles de foule, mais enfin, ils étaient que 450-500 personnes. Tu parles pas, pour moi, c'est pas une foule, quoi.
Il n'y a pas de revendication. Dans le sens où ils n'arrivent pas à se déterminer sur des revendications précises. On a l'impression qu'à Paris, la première étape, c'est une psychanalyse de groupe où les gens ils sont contents d'être ensemble et ils parlent. Ils parlent de tout et de rien. Ils parlent de la nécessité de changer la société, de changer le monde. Mais après, il n'y a pas de revendication tangible. Va se réclamer de la démocratie. Un autre va mettre en avant des arguments issus de la constitution des droits de l'homme. Un tel autre va parler des sans-papiers. Un tel autre, tu vois. Mais il n'y a pas véritablement de synthétisation, de synthèse, n'importe quoi, de synthèse, de travail d'élaboration, et surtout, ce qui moi m'a choqué quand j'intervenais, c'est que on peut identifier clairement quel est le problème. Alors, le problème, c'est un système économique qui s'appelle le capitalisme, qui est aujourd'hui en crise, qu'on nous fait payer, et eux, ils utilisent le terme d'oligarchie. Et cette oligarchie, c'est clairement la bourgeoisie. Et il y a aussi le fait qu'on puisse parler de la précarité, qu'on peut parler des migrants, etc., etc. Donc, tu vois, il y a un problème, on n'identifie pas. C'est-à-dire, à trop vouloir rejeter la politique institutionnelle, on se dépolitise aussi. Par contre, ce qui moi m'intéresse, c'est que pour certains et pour certaines, mais même la majorité des gens, en fait, c'est leur premier engagement. C'est des gens qui n'ont pas forcément été engagés dans le CPE ou dans d'autres types. Et il y a pas mal de jeunes travailleurs ou de jeunes gens qui sont aujourd'hui dans des situations précaires, un peu de chômage, un peu, etc. Des profs non titulaires notamment. Il y a un Rémois ici qui travaille dans les vignes, etc. Donc c'est leur premier engagement. Ils sont en train de vivre quelque chose de fort. Et je te le disais, ils y croient vraiment à mort, quoi. Ils ont raison, hein, tant mieux. Plus il se passe de choses, mieux c'est. Mais je pense que vraiment, il va falloir, politiser le discours et vraiment essayer d'avoir une réflexion de fond. Et alors, un autre point aussi qui est remarquable, c'est que, on ne connaît pas tous les militants politiques de la place de Paris, il ne faut pas exagérer, quoi. Mais par contre, il n'y avait aucun militant politique. Ça.
Par toi.
Moi et un camarade, salut Jean-Pierre, j'espère que tu as réussi à sortir, mais il y avait vraiment très peu de gens comme si les militants politiques posaient soit se désintéressaient parce qu'ils estimaient que ça les concernait pas, ou soit parce qu'ils pensaient qu'ils avaient rien à faire là-dedans. Ils ont le droit, c'est évident. Je sais pas comment on peut avoir des critiques. Alors le problème est-ce qu'on se trouve à l'intérieur et on essaye d'agir, ou est-ce qu'on se trouve à l'extérieur et qu'on critique? Là-dessus, j'ai pas la réponse, parce que je sais pas s'il est possible de faire quelque chose là-dedans, quoi. Je sais pas.
Est-ce que tu as des informations sur ce qui se passe en Grèce?
Alors, ce qui s'est passé en Grèce, il y a eu quand même deux journées, le 15 décembre et le 15 juin. Le 19 juin. Alors, le 15 juin, il y a eu une grosse journée, puisque il y avait un vote au Parlement. Et puis le 19 juin, il y a eu donc, comme on disait au téléphone, la plus grosse manifestation de l'histoire contemporaine de la Grèce.
Justement, par rapport au 15 juin, j'ai une motion de l'Assemblée populaire de la place
Syntagma.
Alors, je ne vais pas vous donner, je vais pas vous lire la motion, mais je vais vous en tirer quand même un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Donc, c'est la motion qui a été votée. Il est évident que nous resterons sur les places publiques, et ce, jusqu'à ce que tous ceux qui ont créé l'impasse actuelle, FMI, Union européenne, gouvernement, banque, et tous ceux qui nous exploitent s'en aillent et de manière définitive. Il est hors des questions qu'ils puissent revenir sous d'autres déguisements. Plus loin, c'est là que tu vois, il y a quand même, par rapport à Paris, il y a quand même une différence. Au niveau des modes d'action, ils demandent d'encercler le Parlement, de revendiquer la chute du gouvernement. Donc c'est clairement, ça se situe bien sur le terrain politique. Nous appelons aussi, alors ça va vous faire sourire, tous les syndicats à effectuer des grèves conductibles, souvenir, tous les jours sur la place Syntagma, tous les soirs à l'Assemblée populaire et le dimanche 19 juin, tous dans la rue, et effectivement ça marchait, puisqu'il y a eu une énorme manifestation que la Grèce n'avait pas connue depuis des décennies.
Alors, pour revenir sur la journée du 15, il y a quand même un truc intéressant, puisque pendant que les députés étaient en train de se réunir pour savoir à quelle sauce ils allaient manger les travailleurs grecs, il y a quand même des gens qui ont réussi à rompre le cordon policier et à essayer vraiment d'investir le lieu du pouvoir et le palais présidentiel d'un autre côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en Grèce, ça fait quand même pratiquement 3 ans qu'il y a un mouvement social qui se bat contre la crise et contre l'austérité, et que aujourd'hui, je crois vraiment que il peut se passer quelque chose de supplémentaire. Ça repart encore plus fort. Et faut savoir qu'en Grèce, il y a eu toute la composition de l'action sociale, quoi. Il y a eu des journées de grève générale très importantes, 3, 4, 5 fois. Il y a eu des journées qu'on peut qualifier, moi je pense, d'insurrectionnel, quoi, hein, où il y avait vraiment des gens qui avaient envie de poser la question du pouvoir dans la rue. Et là, il y a une nouvelle chose, une nouvelle étape. Et par contre, je crois que c'est pour eux, c'est quitte ou double, quoi, parce que la situation de la Grèce, elle est terrible, quoi. La dernière fois, on discutait de savoir sur les informations qu'on avait par rapport à la dette, par rapport à la situation économique de la Grèce, quelle était la part de propagande pour pouvoir faire accepter des mesures, et quelle était la part de réalité. Bon, sans entrer dans des explications trop techniques, savoir que le salaire moyen en Grèce, il est de 540 € par mois, qu'il y a 46,4% des 15-25 qui sont au chômage, 20% des actifs, donc de la population en âge de travailler, que l'âge de la retraite a été porté à 67 ans, que les salaires des fonctionnaires ont été baissés de 20%, donc 540 € par mois, avec un prix de l'essence qui est équivalent ici, voire même plus cher dans certains endroits, quoi, et un prix de la vie qui est somme toute très équivalent, avec en plus des poussées du prix de la vie quand il y a les touristes qui arrivent donc dans cette saison là, quoi. Donc vraiment, les Grecs, ils sont au bord de la crise de nerfs, et à ça il faut savoir que non seulement les mesures qui sont données qui sont proposées par l'Europe sont à la fois inefficaces, mais elles sont profondément injustes. C'est-à-dire que l'Europe prête des sous à la Grèce, à 5%, hein, parce que rien n'est gratuit, évidemment. Donc ils se font du fric avec cette situation, surtout la France et l'Allemagne, hein, évidemment. Donc ils creusent de nouveau la dette, et en échange, ils demandent à la Grèce de prendre des mesures dites de rigueur d'austérité, en gros de faire baisser le coût du travail et de faire des économies, voire de privatiser certains pans entiers de son économie, pas pour le moment parce que c'est pas possible. Donc d'un côté ils augmentent les sous qu'on doit, et de l'autre côté ils baissent la partie des revenus et la partie économique, ils créent la rigueur et l'austérité, alors que en termes de d'intelligence économique, comme on dit, il faudrait essayer de relancer éventuellement la croissance, mais ça, si on regarde avec nos yeux logiques, évidemment ça paraît absurde, mais ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir continuer à conserver le taux de profit. Et d'un autre côté, les banques dites privées, les créanciers privés, eux prêtent à 25%, donc appuient sur la tête du débiteur, sous-note le débiteur, vous savez, ces fameuses notes là, ce qui permet d'augmenter la prime de risque et donc de faire encore plus de fric.
Bye.
Donc en prenant à chaque fois un petit peu plus de risque, un peu, si vous voulez, un peu comme le jeu de la roulette russe, où la balle, le barillet d'après, il rapporterait encore plus de fric. Mais le problème, c'est que, et c'est évident, à mon avis, moi, je pense, c'est une hypothèse personnelle, mais cette situation, elle est pas tenable, et la Grèce, elle va sortir de l'euro, c'est clair. À mon avis, c'est pas possible autrement, avec le risque potentiellement d'avoir un repli nationaliste en Grèce, parce qu'on n'a pas parlé de ça effectivement, mais il y a eu quand même des manifestations qui ont été attaquées par des fascistes, hein, et par des groupes de policiers qui servent un peu de supplétif au fort de l'ordre, quoi, et au pouvoir. Mais la Grèce va sortir de l'euro et ça va avoir un impact très très fort sur la zone économique euro. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que il y a un appel par un type qui s'appelle Miris Theodorakis. Bon, politiquement il y a plein de choses à redire, mais l'appel est intéressant. Il demande au peuple européen de les supporter, de les soutenir, non pas parce que la Grèce est le pays de la démocratie, gna gna gna, Protagoras, Socrate, mais parce que ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, ça va se passer demain en Espagne, après-demain au Portugal et dans quelques temps en France. Et c'est évident, si la continuité de la politique internationale et de la politique économique internationale est comme ça, c'est évident que ça va se passer comme ça. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui, dans Le Monde de ce week-end, il y a un long éditorial où les gens du monde, hein, c'est des libéraux de centre droit, hein, on va dire quand même, c'est des gens qui respectent un peu la veuve et l'orphelin, mais voilà. Mais ils commencent à flipper, quoi, hein, parce que ils voient que tout le monde se désintéresse des élections, que les élections législatives au Portugal, ça n'a pas marché, que il y a de plus en plus de mouvements et que les institutions politiques, elles sont complètement à la ramasse par rapport à ça. Elles n'ont rien à proposer, hormis un peu de matraque et beaucoup de bâtons. Et voilà quoi. Donc le brave éditorialiste du Monde demande à ses puissants d'être à la hauteur de leur époque et de donner un peu de rythme. Non, mais bon, c'est intéressant que voir que ce journal-là commence à dire, pour que le monde soit dit, il y a un risque. Eux, ils parlent de contagion.
J'allais dire.
Parce que c'est une maladie. Risque de contagion, je ne sais pas si on m'entend, si le micro fonctionne. Mais moi, je voulais dire qu'il se passe déjà des choses importantes au niveau de l'État qui gère actuellement, le gouvernement qui gère actuellement la Grèce a déjà concédé à des intérêts chinois les ports, le fameux port énorme, qui lui vampirise complètement une partie de l'économie, puisque toute l'exportation, ils ont construit des entités absolument colossales. Ils ont déjà créé leur propre fonctionnement au niveau du code du travail. Donc il y a déjà des choses qui se mettent en place qui vont même beaucoup plus loin que la réduction l'augmentation de la pour aller à la retraite et tout ça. Donc l'État grec sait ce qu'il fait, c'est-à-dire d'un côté il va demander du fric à l'Europe. Et puis de l'autre, il concède une partie de son économie à des intérêts internationaux, quoi. En l'occurrence, là, c'est la Chine. Donc,
c'est souvent la Chine.
Pour nous, que l'Europe sorte de la Grèce, ça merde ce que je dis. que la Grèce quitte l'Europe, bon, je sais pas si le mouvement social peut imposer ça, mais est-ce que c'est un... Pour nous, ce qui est important, c'est que les gens décident par eux-mêmes s'ils parviennent à un mouvement social suffisamment fort pour décider eux-mêmes de leur économie, parce qu'en fait c'est ce qui est, on l'a déjà évoqué souvent ici à cette antenne, le fait que justement précisément quand la Grèce est entrée dans l'Europe, elle a dû abandonner un certain nombre de choses, et notamment au niveau de l'agriculture et tout ça, précisément au niveau de l'industrie. Mais quand on rencontre des Grecs, ils nous expliquent qu'en fait ils ont dû abandonner une grande partie de leur industrie. Alors bon, avec toutes les critiques qu'on peut émettre sur l'industrie, hein, la question n'est pas là, mais par exemple on se pose jamais la question de savoir si pour le moment la Turquie, par exemple, n'est pas dans l'Europe, mais ça n'empêche pas de faire des affaires extraordinaires avec l'Europe, hein, et notamment de délocaliser des entreprises qui viennent des quatre coins d'Europe, quoi.
Non, en fait, si tu veux, le problème, c'est que je pense que la question de l'euro, les jours de l'euro, ils sont réellement comptés en tant que monnaie internationale. Tu vois?
Oui, c'est ce que les socialistes disent aussi.
Ah bah, merde. Mais à la limite, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse en tant que tel, mais c'est quelque chose qui va avoir des profondes incidences sur nos modes de vie à nous. Dans le sens où, déjà, c'est pas terrible, mais ça sera encore pire. Puisque si il va y avoir une période d'inflation, c'est évident, il va y avoir un renchérissement de la vie, et comme évidemment les salaires ne suivent pas, on va entrer dans c'est-à-dire que, quelque part, ce truc qui a commencé en 2008-2009 de crise, c'est juste que les prémices, et on a l'impression que il n'y a pas de fin, quoi. C'est une espèce de spirale où tout va pour le moins bien, quoi. À la tête de l'État, on nous dit que c'est terminé, mais ça n'a jamais été aussi dur, quoi. Ça n'a jamais été aussi dur, il ne s'est pas parti.
Petite remarque quand même, ces mouvements qui existent aussi bien en Espagne qu'en Grèce, et surtout en Grèce, ce qui est remarquable, c'est que, comme ce qui s'est passé en Égypte et puis en Tunisie, les gens n'ont pas peur. Et ça, c'est génial. Hein, ça, c'est formidable. Quand les gens n'ont pas peur, finalement, on peut arriver à des situations super chouettes au niveau d'un mouvement social, hein, où les gens peuvent... aller beaucoup plus loin et faire en sorte qu'il se passe quelque chose d'intéressant.
C'est une des qualités que je peux reconnaître aux indignés de Paris, c'est effectivement leur pleine confiance en eux et leur absence de peur qui fait qu'ils ont envie d'aller très très loin, quoi. Mais moi je pense quand même que cette semaine elle va être intéressante par rapport à la situation internationale, quoi.
Thank you.
l'envers de connaître le verdict de l'affaire Colonna, quoi qu'on s'en doutait un peu, on le savait depuis le début, hein, que de toute façon ça serait perpète, sauf que il n'y a pas les 22 ans de prison incompressible. Petite remarque tout de même, comme d'habitude, il y a quelqu'un qui est condamné à perpétuité, sans qu'il y ait de preuves tangibles, sans qu'il y ait, au niveau de la justice, n'ait apporté quelques preuves que ce soit. Si ce n'est que là, il va falloir que la justice se justifie du pourquoi elle a condamné Colonna à autant, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas les 22 ans. C'est parce qu'effectivement, au niveau des explications que va donner les juges, ça va être peut-être, parce que là, ce sont des juges, on n'est pas dans une cour d'assises, hein, c'est une cour d'assises spéciale, comme on dit. Là, ils vont être obligés de monter au créneau et de s'expliquer un petit peu pourquoi et sur quelle base ils ont condamné Colonna à perpète. Alors bon, c'est pas la première fois, c'est moins qu'on puisse dire qu'il y a des gens qui sont condamnés en France à perpétuité, même exécutés d'ailleurs dans l'histoire de la France sans qu'il y ait de preuves tangibles. Hein. Ça me rappelle plus le verre rouge aussi, hein, où il n'y avait pas non plus de preuves tangibles que ça soit vraiment la personne qui est tuée. Bon, et n'empêche que cette personne a été exécutée, c'était avant l'abolition de la peine de mort en France. Il y a eu aussi, plus récemment, mais ça s'est mieux passé pour eux, l'affaire Dils, l'affaire Omar Mathué,
Omar Haddad,
oui, sauf que Omar, peut-être été libéré, mais pour l'instant,
il est gracié.
Il est toujours condamné.
D'ailleurs, il demande une révision complète de son procès.
Il y a un film d'ailleurs qui sort là-dessus, qu'on n'a pas encore vu. Bon.
Alors, paraît-il qu'il est très bon. D'après Omar, mais ce qu'il a donné son avis sur ce qui est dit au niveau de sa vie.
Je crois que sur le truc, sur le procès de Colonna, on peut regarder ça avec les lunettes qu'on veut. D'un point de vue strictement objectif, c'est 7 semaines de procès, quoi. C'est une histoire qui dure depuis 7 semaines, donc pratiquement 2 mois, et on n'est absolument pas plus avancé que lors de l'arrestation et du premier procès. C'est-à-dire qu'on sait rien. On ne sait pas comment ce truc a été organisé, qui a tiré, qui a fait quoi. Il n'y a aucun, on parle d'éléments matériels hein, en justice. Là, c'était des magistrats professionnels. Il n'y a aucune preuve irréfutable sur Colonna, quoi. Donc, d'un point de vue judiciaire, normalement, le doute profite toujours à l'accusé.
Non, devrait.
Alors, oui, mais c'est écrit dans la loi.
Ouais.
Mais le problème, c'est que cette affaire, elle n'est pas judiciaire. Elle est politique.
Elle est politique, tout à fait.
Moi, je voulais dire une chose. Il y a eu une grosse opération médiatico-judiciaire avec la soi-disant découverte d'une lettre qui aurait été envoyée par Colonna à ses... comment on pourrait les appeler à des détenus, des gens qui sont condamnés aussi dans cette affaire. Et cette lettre le mettant en cause, lui, attestant qu'il les aurait menacés en fait. Et en fait, il s'avère que ce sont des éléments, apparemment Colonna a reconnu, il a dit qu'il y avait des éléments, c'était son langage, mais il n'avait jamais écrit cette lettre. Et en fait, ça a fait un coup de tonnerre, en tout cas médiatiquement, ils se sont bien servis de ça
pour justifier,
pour l'enfoncer, ouais, quoi. Alors qu'en fait, il a jamais envoyé cette lettre. Enfin, lui, il dit qu'il a jamais envoyé cette lettre.
La personne qui est censée l'avoir reçue a dit que c'est.
Il n'a pas reçu.
Elle n'a pas reçu.
Ça a été donné aux flics. C'est une photocopie d'une lettre qui aurait été trouvée dans la cellule d'Alain Ferrandi,
oui.
Celui qui est décrit comme le chef du commando, et une lettre, une photocopie, hein, même pas l'original. L'original n'a pas pu être montré à la barre, à l'audience, et Colonna dit qu'effectivement c'est son écriture, mais qu'il y a des raccords dans la lettre qui sont extrêmement bizarres. Et la lettre, en plus, elle est vindicative, mais elle est pas claire. Elle dit, Ferrandi, maintenant il faut que tu parles, sinon ça va être la guerre. C'est quelque chose qui peut être interprété, mais c'est effectivement un élément qui a été présenté comme un rebondissement. Bon, ben, il y a d'autres types de rebondissements. Par exemple, le fait que le super flic
J'espère que je vais pas faire une confusion. C'est Baril, si c'était Baril que a commencé Paul Baril, vous savez. Un
oui, oui, c'est bien lui. Flic, Baril, ouais.
À la Broussard et compagnie.
L'opération de Vincennes, entre
ouais,
autres.
Ouais, c'est ça, ouais. Et qui s'est étalé à la barre pour dire sa certitude que ça soit Colonna. Oui, à part que Baril a fait arrêter des gens.
Ouais, ouais. Non, mais je tombe des nues là. C'est Baril, lui. il a.
Bien sûr. C'est Marion, pardon. Ah, c'est voilà.
Ah,
oui, mais moi, je les confonds tous.
D'accord. Non, parce que Baril, il a été condamné lui-même. Non, il a monté de toutes pièces une opération, les Irlandais de Vincennes. Et c'est un.
C'est mais c'est la même, mec. C'est la même caste. C'est, ouais, c'est pour ça que je fais une confusion. Pardon. C'est Roger Marion, qui avait, au départ, commencé une enquête sur une filière dite agricole et informatique. Il y a quand même des gens qui ont été condamnés en première instance. Heureusement qu'ils ont été libérés, parce que sinon, ils seraient encore en train de croupir en prison. Et qui, là, faisait part de ses certitudes, quoi. Enfin bon, voilà, un procès pour rien, à part le fait que il y a un homme qui vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sur des choses qui sont très très faible, quoi. Il est évident que si on met pas en avant l'aspect politique, le fait que Colonna a été un accusé qui a été présenté tel quel, sur lequel le ministère de l'Intérieur à l'époque, le ministre de l'Intérieur, a fait un peu de sa campagne présidentielle, on avait fait d'ailleurs un enjeu personnel et un enjeu politique personnel, et qu'aujourd'hui on verrait mal des juges professionnels, puisque la Cour d'assises spéciale, déjuger quelque part.
De procès déjà,
c'est ça. Et je crois que c'est un petit truc supplémentaire, parce que on peut dire oui, mais t'as vu à Outreau, ils ont été capables. Oui, bon, d'accord, à Outreau, il y a quand même des gens qui se sont flingués en tôle, quoi, enfin qui se sont suicidés. Donc il faut qu'ils aient du sang sur les mains pour ça. Mais là, il y a quand même autre chose, quoi. C'est parce qu'il y a cette espèce. Il y a le préfet. Et le préfet, c'est le symbole de l'État.
Bah oui, c'est pas le symbole, c'est l'État.
C'est l'État, ouais.
C'est pas le symbole.
Et l'État, il a vraiment été touché dans son cœur. Et il peut pas ne pas faire payer même des innocents durement. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce préfet a été tué. Pourquoi est-ce que des gens ont agi comme ça, quoi. Finalement, on a des gens qui sont présentés soit comme des fous, soit comme des abrutis, soit comme des terroristes qui font des actes, et il y a des gens qui sont en prison et on n'avance pas, quoi. Donc là, vraiment.
Alors il y aura peut-être un quatrième procès, puisque les avocats viennent de décider qu'ils essaieraient de monter un dossier en cassation.
Et la domination du système du capital, et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se tuer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'était Grégoire. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégoire, une parole anarchiste communiste.